Sylvain Letcher, bonjour.
Oui, bonjour.
Malgré votre rhume, vous êtes là, Sylvain, on apprécie beaucoup. Merci.
Bonjour,
merci
Sylvain.
À vous. Salut, Yves.
Vous êtes professeur régulier au département des sciences de l'éducation de l'Université du Québec et là pour parler avec nous du rôle du parent dans l'intégration de l'enfant sourd. Il y a des obstacles, des facilitateurs, voilà, je l'ai dit. Et également, on a commencé à en parler un petit peu avec Yves, mais j'imagine que un des bienfaits ou quelque chose qui aide l'enfant à s'intégrer, à s'adapter, c'est bien sûr des parents un petit peu à l'image d'Yves qui relèvent leurs manches et ont envie de s'impliquer et de s'engager dans leur communauté, Sylvain.
Oui, tout à fait. Excusez-moi. Dans le fond, juste pour situer un peu mes expériences aussi, avant de parler de ce rôle des parents, en fait, moi, j'ai un vécu d'enseignant auprès d'élèves sourds, d'élèves entendants. En fait, j'enseignais plus spécifiquement dans une école secondaire en France, auprès de ses élèves en classe spéciale et aussi en classe ordinaire, dans un contexte un peu particulier, en fait, qui était une école oraliste, mais qui avait un désir de développer une approche bilingue. Je vais revenir un peu sur ces mots-là un petit peu après, parce que c'est associé un petit peu à ce que j'entendais de ce que prononçait Yves, en lien avec ses défis des parents, sur quelle approche utiliser, etc. En fait, j'ai rencontré des personnes sourdes depuis une quinzaine d'années, des sourds signeurs, en fait, qui communiquent en langue des signes française ou en langue des signes québécoise, mais aussi des sourds oralistes appareillés ou ayant un implant cochléaire. En fait, de ce que j'entendais d'Yves, c'est qu'il y a un défi pour le parent qui apprend que son enfant naît sourd ou qu'il devient sourd.
Oui. Il y a beaucoup de questions, en fait, qui s'imposent assez rapidement.
Tout à fait. En fait, c'est des questions très importantes et qui vont toucher, en fait, un des principaux besoins de l'enfant sourd, qui est la communication. Et la communication, c'est à la base de la stimulation chez l'enfant sourd pour lui permettre de développer son langage. En fait, se représenter en mots le monde qui l'entoure, lui permettre d'interagir avec les autres, l'adulte, les autres enfants. Et ça commence très tôt. Ces enfants-là vont avoir des défis bien dans leur contexte familial, mais aussi à la garderie.
Ouais.
Et ils vont rencontrer des obstacles. Donc, le rôle du parent en arrière-plan, ça va être un rôle important, ne serait-ce que déjà dans l'orientation des services. Bien sûr, il y a le dépistage néonatal. Les parents vont probablement vivre un deuil. En fait, mon enfant ne sera pas entendant. Là, c'est un défi important qui se pose.
Oui.
Et ils vont avoir à prendre des décisions, en fait, sur le cheminement de l'enfant.
Oui. Et il y a toutes ces grandes questions aussi avec, on parle des implants cochléaires beaucoup, là, ces temps-ci. Est-ce qu'on permet l'appareil à notre enfant? Est-ce qu'on lui offre ça ou pas? Parfois, le parent a beaucoup de choses à démêler dans ce processus-là, en plus de faire son deuil de l'enfant différent.
Tout à fait. Et puis, dans le fond, ses parents vont se poser la question très tôt. Ils vont avoir de l'information. Donc, dois-je faciliter finalement le développement de la langue des signes chez mon enfant? Est-ce que je dois appareiller mon enfant? Est-ce que je dois faire le choix de l'implant cochléaire? Ça arrive très tôt, en effet, qu'il y ait cette possibilité-là, en fait, de l'implant cochléaire. C'est autour de 2 ans, en fait, les parents vont aller en ce sens pour l'âge de l'enfant. Il y a ce deuil, en effet, et ce deuil-là est important parce que de mon expérience et aussi à travers la littérature, on remarque que ce deuil-là amène un déséquilibre dans la famille. Dans les études que j'ai effectuées aussi, on remarque une résilience familiale, une responsabilité des parents sur l'avenir de l'enfant. L'implant cochléaire, c'est une opération chirurgicale importante.
Près du cerveau, là aussi, c'est quand même une zone assez délicate. Là.
Tout à fait. Dans ces contextes-là, il n'est pas rare, en fait, que des parents se séparent aussi. Et ça, c'est aussi vrai, aussi bien pour des parents d'enfants sourds que des parents qui auraient un enfant qui vit une situation de handicap.
Tout à fait. Sylvain, plutôt Yves, vous aviez envie d'ajouter quelque chose avec Sylvain.
Ce que Sylvain nous apporte, c'est tellement intéressant, mais ce que l'on vit à l'intérieur comme parents aussi, c'est toute la pression sociale vers la normalisation. Tu as un enfant sourd, il y a un outil magique qui s'appelle l'implant cochléaire, alors que ce n'est pas réellement un outil magique. Ce n'est que la meilleure appareil auditif, à mon sens, etc. Donc, Le couple, quand Sylvain dit que le couple est à risque, il est à risque si on n'est pas dans le même alignement, si on n'arrive pas à penser ensemble à ce sera quoi nos choix qu'on fera pour notre enfant puis pour notre famille, on risque justement de vivre la séparation puis on risque de compliquer encore plus l'avenir du jeune dans cette situation-là. Je voulais juste le nommer parce qu'il y a une pression sociale imposante sur la normalisation.
Oui. Sylvain, on a parlé du langage, on a parlé de plein de choses, mais quand même beaucoup du langage, de l'importance de la parole, de la langue pour entrer en communication, pour l'intégration. On comprend que c'est un facteur important, peut-être le plus important. Est-ce qu'il y en a d'autres, des facteurs d'intégration qui peuvent aider l'enfant et son parent et sa famille?
Tout à fait. C'est une question très large. Je dirais que si je suis ce fil conducteur de la communication, ces choix que les parents ont à faire, ce sont des choix qui vont orienter principalement sur une approche oraliste, qu'on dit oraliste, ou une approche bilingue, en fait. L'approche oraliste, là, très brièvement, c'est l'apprentissage premier de la langue majoritaire. La langue majorité, c'est la langue orale. On va essayer d'utiliser les restes auditifs par le biais d'une amplification du son, un appareillage, utilisation de codes signés, des gestes qui sont pas en fait une langue comme la langue des signes québécoise. L'approche bilingue, elle, va privilégier en fait l'usage de cette langue des signes, mais aussi la langue orale. En fait, c'est une approche que j'ai plus utilisée dans ma pratique. Suivant ce fil conducteur là, dans le fond, dépendamment du choix des parents, donc l'enfant, ok, va être appareillé, va avoir un implant cochléaire ou il va être tout simplement, il va communiquer seulement en langue des signes. J'ai rencontré ces élèves-là et ça arrive très tôt aussi que ces enfants-là, en fait, quand on leur laisse la possibilité d'un choix de communication, je remarquais vers l'âge de 11 ans, 12 ans, quand je posais la question à mes élèves, qu'est-ce que tu préfères, communiquer en langue des signes, avoir un appareil? Puis certains, en fait, s'affirmaient, en fait, dans cette identité déjà d'enfants sourds qui se reconnaît même à travers une culture sourde.
Ouais.
C'était assez intéressant, tandis que d'autres disaient « Non, moi, je préfère être appareillé, etc. etc.
»
Quand on laisse cette possibilité-là, en fait, c'est parce que comme ça arrive très tôt que le parent prenne des choix pour son enfant, lorsque c'est l'enfant lui-même qui fait ces choix-là,
ouais,
ça devient intéressant par la suite.
Oui, c'est tellement bien de vous entendre là-dessus. Sylvain, Yves a envie d'ajouter quelque chose. Et je vous poserai la question, par exemple, avant Yves Blanchette.
Oui.
Vous avez fait le choix pour Fanny et Jérôme de ne pas imposer l'implant cochléaire. Ils n'en ont pas. C'était orienté par quoi, ce choix-là?
Enfin, on a fait le choix d'aller vers leur monde. On savait que c'était un problème de communication. Puis ça va intégrer justement ce que je voulais dire tantôt. Vous savez, on a une approche médicale, une approche de soignant. Et on pense souvent aux enfants sourds, hein, on va les soigner en leur donnant l'audition ou des outils d'audition, de communication. On oublie totalement l'aspect socialisation. Et nous, on a réfléchi en termes de parents, en tant que parents, et discussion avec mon épouse. Nous, on veut qu'il y ait une capacité de socialisation. On a fait beaucoup de lectures, langue des signes, etc., pour finalement choisir d'aller dans le monde de notre enfant pour qu'il revienne dans le nôtre après. Et c'est un succès pour l'instant.
Oui. Et ce que j'entends aussi de par Sylvain, c'est de donner le libre choix à l'enfant et aussi peut-être un meilleur gage d'intégration réussie. Et ça, on le retient. Avant de se laisser, Sylvain Letcha, j'aimerais peut-être glisser un petit mot sur vos études présentes. Vous planchez sur quoi?
Plusieurs études présentement. Dans le fond, je travaille au sein d'une équipe de recherche du CIRIS sur les pratiques sociales et la surdité. Et on collabore notamment avec des associations. En fait, plus particulièrement dans cette étude-ci avec la CEPA, pour justement développer des outils pour favoriser la communication des enfants sourds, des personnes sourdes avec leur famille et la communauté.
On guide aussi les gens qui nous écoutent à ce site que vous nous avez référé, Sylvain Letcha, réseausurdité.com. On le glissera sur notre site. Merci Yves Blanchette de nous avoir mis en communication avec Sylvain Letcha. C'est vraiment quelqu'un de très intéressant. Je pense qu'on vous rappellera, Sylvain Letcha.
Oui, je pense que j'en aurais eu pour bien une heure, peut-être.
Oui, je pense aussi.
Écoute, je te salue, Sylvain, puis quand tu passes à Trois-Rivières, n'oublie pas de m'appeler, là.
Non, okay? Non, c'est sûr. Salut.
Salutations à Caroline et les enfants. Bye.
Merci, bye.
Au revoir, Sylvain Letcha, professeur régulier au département des sciences de l'éducation et de l'Université du Québec à Rimouski. Ça a été un grand plaisir.
Merci.